Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 20 juin 2020, soit 75e épisode déjà qu'on enregistre, Germain.
Ça tombe bien, ça parce que j'ai l'impression que dehors, il fait 75 aussi.
Oui, voilà. c'est pas froid. Et je veux d'abord souligner le fait que demain, donc 21 juin, Jacques Duval fêtera son 86e anniversaire, alors on le salue puis on lui souhaite
le pionnier du métier qu'on pratique
exactement.
En ce moment.
On va parler de plagiat pour commencer, oui. Germain, parce que...
Non pas parce que j'ai copié un texte, mais bien non. Parce que la compagnie indienne Mahindra, je ne sais pas si vous connaissez ça à la maison, donc compagnie qui produit surtout là, des véhicules récréatifs, là, des véhicules...
Des côte-à-côte,
des
VTT,
etc. Ouais. Et ben, ils sont débarqués en Amérique du Nord avec le Roxor. Et je vous jure que si vous regardez des photos, vous allez penser que c'est un petit Jeep Wrangler. Si bien que chez FCA...
Un Jeep CJ5 ou CJ7,
oui, exactement,
un vieux Jeep.
Donc, pas l'actuel. Vraiment celui qui était très, très, très carré. Encore plus que l'actuel. Et ben, la ressemblance est si frappante que chez FCA, on a déposé une plainte. Donc, on a poursuivi Mahindra pour refuser, en fait, que le véhicule soit vendu aux États-Unis. Et ben, on a gagné parce que la ressemblance était à ce point frappante.
Je vous invite à googler Mahindra, oui. Roxor pour aller voir. C'est les phares ronds, c'est la calandre à 7 bandes verticales.
Oui.
C'est vraiment un Jeep, sauf qu'on ne peut
c'est
pas l'immatriculer.
Petit. Voilà.
On ne peut pas l'immatriculer. C'est fait pour aller se promener dans les sentiers uniquement.
Et au Canada, il continue d'être commercialisé. C'est vraiment un jugement qui était rendu
américain.
Seulement pour les États-Unis.
Ouais.
Et oui, ben, tu allais mentionner le prix. Ça part à 20 000 $. Donc, je suis pas un grand fan de côte à côte, mais j'avoue qu'il est assez cute.
Ben, c'est quand même charmant. C'est une compagnie indienne, Mahindra, ouais. Qui prend beaucoup, beaucoup de place en ce moment sur le marché nord-américain. Mais là, il y a un petit frein qui vient d'arriver. On va parler de la Mustang Mach-1. Évidemment, ça a été dévoilé cette semaine. Pour mon grand plaisir,
ben
je
oui.
la trouve magnifique. Je trouve qu'on a réussi à ramener efficacement le nom Mach-1 sur une Mustang. On ne l'a pas fait souvent. On l'a fait en 2002-2003. Puis là, on le refait à nouveau. 2003-2004? 2002-2004? Je suis mêlé, là. Bref,
ben cette génération
autour
là,
de là.
Oui.
Ma seule déception, c'est qu'on n'a pas ce qu'on appelle le shaker hood qu'on
ouais.
a eu sur les autres générations. Parce que sinon, c'est une mécanique directement empruntée à la Bullitt.
Dit, on a arrêté de faire l'édition spéciale qu'est la Bullitt parce qu'il y a des limites à en faire à chaque année. On a ramené un vieux nom pour plaire aux baby boomers. On a mis 2-3 décalques. Ça a fini
mais
là.
Mais esthétiquement, c'est réussi, pas à peu près.
Franchement, je préfère de loin, mais de loin la Bullitt. Pour oui, oui, je sais. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est le V8 5 litres. Qui est à 480 chevaux, donc exactement la même chose que la Bullitt. Et on nous a dit que c'était une édition, encore une fois, limitée. Mais comme la Bullitt, on ne nous dit pas combien, parce qu'on sait très bien qu'on va produire toutes celles qui peuvent être vendues.
Mais ce que je déplore de la Bullitt versus la Mach-1, c'est que la Bullitt, c'était une voiture verte, bon, quelques modèles noirs, une bleue
c'est
qui a été produite.
C'est magnifique, le vert.
Mais elles sont toutes identiques. Alors que du côté de la Mach-1, ben là, il y a une panoplie de couleurs disponibles, d'options.
Ce qui la rend moins intéressante.
Ben non.
Oui.
Ben non. Bon, passons au prochain appel.
Voilà.
Je vais t'en parler un véhicule intéressant, moi, là, le Nissan Rogue.
OK, on est obligé.
Nissan Rogue
hein?
2021, ça a été dévoilé cette semaine aussi. Nouvelle génération, belle gueule. Très évolutif. Moi, je trouve que sur le plan esthétique, c'est réussi. Mais Nissan n'innove d'aucune façon avec ce véhicule-là.
Ouais.
Et c'est décevant parce que le Rogue, c'est le pain et le beurre de Nissan. C'est le véhicule qui se vend le plus à l'échelle nord-américaine. Pour ne pas dire à l'échelle mondiale, parce qu'il faut comprendre que le Rogue est vendu ailleurs dans le monde sous le nom de X-Trail, notamment du côté de l'Europe. Alors, c'est vraiment un véhicule à volume. Et on nous sert trois versions, SSV, Platinum, plus d'équipement, plus de gadgets, plus de sécurité.
Mais
bon,
tout ça, c'est correct.
Mais il n'y a rien dans un Rogue qu'on ne retrouve pas déjà ailleurs. On peut déjà se plaindre du fait qu'il n'y a pas de siège ventilé nulle part. Oui, on peut ouvrir le haillon avec le pied de façon électrique. Oui, il y a des systèmes d'assistance à la conduite. Pro-pilote assist, etc. Oui. Tout ce que vous voudrez, mais il n'y a pas d'innovation qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et malheureusement, un seul moteur offert et c'est encore un 2.5 litres.
Donc, pas de version performante comme on retrouve des versions optionnelles comme on retrouve ailleurs sur le marché.
CX-5, par exemple.
Oui, puis pas non plus de version hybride. Là. On est rendu en 2020.
Qu'il y avait des rumeurs à ce niveau-là.
Oui, et il y en a déjà eu d'ailleurs un Rogue hybride, mais ça n'a pas été ça n'a pas été un grand succès. Je pense que les gens de Nissan veulent pas reparler de ça.
Ben, en fait, la stratégie de Nissan avec le Rogue est un peu la même avec la Sentra. C'est-à-dire que la Sentra, c'est une motorisation, c'est vraiment... Bon, on cible la clientèle de masse, on ne s'en va pas dans les territoires où c'est un petit peu plus à risque, mais...
Puis on veut vendre un moyen de transport.
Mais je comprends qu'on le fait avec la Sentra, qui est un marché un peu plus difficile par les temps qui courent, mais avec le Rogue, qui est le véhicule à succès de Nissan, je ne comprends pas que justement, et surtout du côté de chez Nissan, on ne fasse pas tous les efforts nécessaires pour offrir une variété de modèles, une panoplie de modèles. Puis c'est encore la même chose. La version de base va offrir trois excitantes couleurs, soit le gris, le noir, le blanc.
Wow.
Peut-être qu'on va mettre un gris foncé puis un gris pâle.
Est-ce que tu vois les étoiles dans mes yeux
quand
on parle?
Oui, mais c'est ça le problème. Ouais. Là, ça manque de piquant. Ouais. Et puis, on a beau dire que le véhicule est plus confortable, plus insonorisé, un peu plus intéressant à conduire, parce que oui, on l'a isolé, on aurait fait la suspension.
Aussi.
Ben voilà. Alors, j'ai bien hâte de voir comment le nouveau Rogue va se débrouiller, parce que si le Rogue s'est si bien vendu au Canada et particulièrement au Québec, ce n'est que pour une question de prix.
Parce qu'il y a
c'est une bonne valeur sur le marché.
Oui. Mais on est très agressif. On est plusieurs dizaines de dollars en bas des concurrents là, sur un financement mensuel.
Sur les locations, oui. Mais est-ce que ça en fait le véhicule du segment qui va pouvoir se démarquer? Parce qu'actuellement, je suis désolé, mais le RAV4 se vend deux fois plus que le Rogue.
Ouais.
Et ça va continuer de monter avec l'arrivée de la version Prime. Puis la valeur de revente est là, etc. Bon, le RAV4, c'est le leader du segment. Pour vous donner une idée en termes de chiffres, on était à peu près à 65 000 unités du RAV4 en 2019 vendues au Canada.
Ouais.
55 000 CRV. Si ma mémoire est bonne, on est à peu près à 39 000 Escape et on était à 37 000 Rogue. Le Rogue était en quatrième position. A déjà été premier en 2018 pour le marché du Québec uniquement. Donc, puis c'est déjà retrouvé dans le trio de tête. Mais il faut dire que l'Escape prend une méchante débarque lui aussi. La nouvelle génération ne se vend pas. Puis l'ancienne génération, ben là, était en fort déclin au cours des dernières années. Donc, probablement que le Rogue va regagner quelque part de marché. Mais on aurait tellement pu faire mieux. Alors, je suis un petit peu déçu. Puis, évidemment, tout ce qu'on nous a vanté du Rogue, c'est plus d'équipement, plus d'écran,
Oui, OK,
mais est-ce qu'il y a quelque chose chez Nissan qu'on offre, qu'on n'offre pas ailleurs? Et la seule réponse qu'on a réussi à me donner du côté de chez Nissan, c'est ben non, il n'y a pas d'équipement que la compétition n'offre pas, mais il y a des groupes, il y a des ensembles qui sont tellement bien en guillemets « packagé », comme on dit en bon français, qu'on va offrir une meilleure valeur sur le marché que ce que propose la compétition. Ça sera à voir. Pour l'instant, je ne peux pas dire que je suis particulièrement emballé. Je ne l'ai pas conduit, là, évidemment.
Non. Puis on ne l'a même pas vu en vrai, en fait, parce que c'est un dévoilement qui s'est fait de manière virtuelle pour des raisons évidentes. Donc, on n'a pas pu prendre place à bord, on n'a pas pu le voir sous tous ses angles non plus.
Je veux dire, le véhicule est esthétiquement réussi. Il y a plus d'espace à l'intérieur. Il y a plus de caractéristiques intéressantes au niveau de la modularité de l'habitacle aussi. On n'a pas de banquette coulissante, malheureusement. Mais bref, on verra pour l'avenir. On va aussi parler d'un autre VUS. Là, on a la date de dévoilement officielle du très attendu Ford Bronco.
Je pense que c'est le véhicule pour lequel on a le plus parlé sans même l'avoir vu personne.
Bon,
donc,
on a vu beaucoup d'esquisses.
Oui, je le sais, mais sans qu'il ait été dévoilé officiellement finalement. Donc voilà, on a annoncé chez Ford que le nouveau Bronco allait être dévoilé le 9 juillet prochain. Et je ne sais pas si c'est voulu chez Ford, mais ça tombe en plein avec la date d'anniversaire d'O.J. Simpson. Donc, je ne sais pas si...
Ah bon?
Oui, donc je ne pense pas que ce soit voulu de la part de Ford. Je pense que c'est
simple. Je trouve ça très drôle.
Je pense que c'est simplement un hasard, mais c'est peut-être pas la décision la plus judicieuse chez Ford. Donc, voilà, on soufflera sur les bougies d'O.J. Simpson en regardant le Bronco être dévoilé.
Et ça m'amène à mentionner aussi qu'il y avait une rumeur qui est sortie il y a quelques jours à l'effet qu'on pourrait peut-être éliminer le Ford Edge et le Lincoln MKX de la gamme Ford Lincoln. Bon, ça semble invraisemblable. Je dis MKX, pardon.
Le dernier...
voyons, je vais-tu le dire? Le Nautilus.
Nautilus,
bon,
voilà.
Parce que ça a la même affaire.
Oui.
Bon, alors... Ça semble invraisemblable considérant que le Edge se vend très bien, mais il faut savoir que le Edge et le Nautilus sont les deux seuls véhicules Ford désormais construits au Canada.
Ouais.
C'est une usine dont le coût d'exploitation est très élevé et dans un espoir de rationaliser ou de réduire les coûts, l'usine d'Oakville en Ontario, qui est une usine réputée pour la qualité de fabrication de ses produits, pourrait passer au bistouri.
Donc,
on est encore
on
à l'étape de rumeur.
Mais on dépasserait le stade de « OK, un véhicule ne se vend pas, on le coupe. » On est vraiment plus loin dans une optique de rationalisation. Parce que ça se vend, somme toute, là, un Edge.
Parce que ça se vend, un Edge. Bon, le Lincoln ne se vend pas, là,
non,
pas
non,
du tout.
Non, non, t'as remarqué que je n'ai pas parlé du...
Mais d'un autre côté, on va mettre beaucoup d'efforts dans la commercialisation du Bronco.
Oui.
Et il est clair que le Bronco pourrait venir voler des ventes au Edge. Donc, est-ce qu'il y a ça aussi qui pourrait jouer? J'espère pour les travailleurs de l'Ontario que ça n'arrivera pas, mais ça serait une autre preuve. Parce que Ford a fermé des usines l'une après l'autre là, en Ontario, on le sait. Là, il reste des usines... si ma mémoire est bonne, il reste des usines de moteurs, je crois. Mais on fabriquait plusieurs produits, puis ça a été éliminé un après l'autre. Maintenant, puis on sait qu'on a fermé aussi un corps de travail à cette usine-là où on fabriquait le Ford Flex et le Lincoln MKT qui sont disparus. Alors déjà, l'usine roule moins que par le passé. Bien hâte de voir, en espérant que ça demeure à l'étape de rumeur, sauf que ceux qui ont sorti la nouvelle ont le nez très collé sur l'industrie du côté de Détroit.
Et la justification que tu viens d'expliquer paraît tout à fait logique. Là.
Alors, espérons que ça va demeurer à ce stade-là.
De mon côté, Antoine, j'ai conduit le Kia Sportage cette semaine et j'ai envie de te répéter quasiment la même chose que je t'ai dit pour le Sorento il y a 2 ou 3 semaines. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui fait très bien le travail, qui fait tout ce qu'on lui demande, mais sans éveiller aucune passion. C'est assez rationnel comme produit. Oui, c'est bien fini à l'intérieur. Comme toujours chez Kia, les boutons sont placés là où toi-même tu les aurais placés. Donc, c'est très intuitif.
Ouais.
C'est pas plus laid à l'intérieur qu'un autre. C'est même spacieux parce que c'est dans les gros de ce segment-là. Et le moteur de base, qui est le 4 cylindres 2.4 litres, fait tout à fait le travail. Donc, il n'y a pas de...
J'ai un petit peu un avis partagé. J'ai un petit peu un avis différent du tien parce qu'autant le Sorento me laisse un peu sur mon appétit...
Ouais.
Autant le Sportage, je l'apprécie plus parce que, justement, d'abord, c'est une meilleure valeur que le Tucson. Pour la raison suivante, c'est que chez Hyundai, le 2.4 litres est le moteur qu'on prend en option.
Ouais.
Chez Kia, c'est le moteur de base et on peut passer un 2 litres turbo
si on veut avoir
plus de puissance.
Qui, lui, a franchement beaucoup de punch.
Je trouve que le look du Sportage se démarque dans la marée de VUS qui se trouve dans ce segment-là.
Si ça commence à faire un petit moment qui est sur le marché.
Mais là, on a fait des retouches l'an passé.
Puis on sait que chez Kia, le changement arrive vite aussi. Là. Donc, Donc,
mais moi, oui, c'est une machine que j'aime beaucoup. Je trouve que son comportement est intéressant. Oui, le rapport équipement-prix, la garantie est là. C'est vraiment une machine que j'aime conduire aussi plus que bien d'autres dans le segment qui ont des données CVT.
Ouais.
Alors moi, j'ai vraiment aimé cette machine-là. Cependant, j'ai trouvé que c'est très sombre à l'intérieur. Si vous n'avez pas le toit panoramique, là, c'est très sombre. Tout est noir. Et l'autre chose,
ouais,
c'est que...
Il n'y a pas beaucoup de jeu de couleurs dans l'aménagement intérieur. C'est, là, c'est très sombre. On se croirait presque dans un vieux Vaux.
Oui, c'est ça. Et l'autre chose que je mentionnerais, bien sûr qu'on a des mécaniques plus performantes que la moyenne, mais il y a un coût de carburant associé à ça. Voilà. Ça consomme un peu plus que la moyenne aussi. Alors ça, il faut quand même le souligner. Moi, de mon côté, écoute...
Tu t'es fait plaisir, là.
Fiat 500X.
Un véhicule très rare.
Fiat 500X 2020. Je me permets de vous dire qu'en 2019, au Canada, on a vendu 50 Fiat 500X.
Donc, d'un océan à l'autre.
D'un océan 500. À l'autre. Et c'est un modèle qui est arrivé sur le marché en 2016. Le véhicule que j'ai conduit cette semaine est une version sport. Avec le nouveau moteur qui est arrivé l'année passée, mais évidemment, on ne l'a pas mis à l'essai l'année passée parce que c'était rare comme de la merde de pape dans un cimetière de protestants, voilà, comme j'aime le dire. Alors, c'est particulièrement rare. 1,3 litres, 4 cylindres, turbo-compressé, 177 chevaux, le tout jumelé à une boîte automatique à 9 rapports et à une traction intégrale qui est désormais de série. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des performances? Quand même étonnant en accélération. Il y a quand même du couple, il y a quand même du nerf dans ce petit moteur-là qui est nettement plus raffiné que le 1,4 litre turbo qu'on avait avant ou que le vieillissant 2,4 qu'on a encore chez certains produits Chrysler. Ouais. Par contre, la transmission à 9 rapports, elle cherche tout le temps le bon rapport.
Évidemment.
On parle d'une très petite cylindrée, là. Alors, ça donne rien d'aller chercher autant de rapports que ça, à mon avis. Et ça paraît dans la conduite. Deuxièmement, il y a un système arrêt-démarrage là-dessus qui est carrément violent lorsque le moteur se remet en marche. La secousse que ça donne, c'est incroyable. C'est un des pires que j'ai vu dans l'industrie. Et j'ajouterais à ça que le fait qu'on ait une très petite cylindrée vient encore une fois me confirmer que c'est très mal adapté pour les besoins du marché nord-américain.
Toujours. C'est juste un exemple de plus, finalement.
Mécanique qui est intéressante sur papier, mais qui consomme plus qu'un 4 cylindres de 2 litres ou 2,4 litres atmosphériques qu'on aurait mis là-dedans. Moyenne combinée annoncée par Fiat, 9,1 litres au 100 pour un véhicule de la grosseur d'un CX-30 ou d'une Crosstrek.
C'est un sous-compact, okay, là, on ne l'oublie pas.
Et c'est exactement ce que j'ai fait dans de super belles conditions en été, en faisant notamment beaucoup d'autoroutes. Maintenant, l'autre facteur qu'il faut que je mentionne, le véhicule que j'ai conduit, qui se compare au véhicule que je vous ai nommé, aussi le nouveau Kia Seltos, le nouveau Chevrolet Trailblazer.
Oui, c'est pas les joueurs qui manquent.
Bon, il y a énormément de compétition. Pensez au HR-V, pensez au CX-3, CX-30 chez Mazda. Il y en a beaucoup, beaucoup. Le Kona aussi. Là, on parle d'un véhicule sur lequel il manque encore des options à 40 200 $. OK? Financé à un taux de 3,49% sur un 96 mois comme l'autorise Chrysler, ça donne des paiements. Non, pardon, je l'avais calculé sur 84 mois, ça donne des paiements de 630 $ pendant 7 ans.
Bon, et tu dis, bon, tu sais, disons que le véhicule conserverait là magiquement sa valeur, tu te dirais, OK, c'est pas si pire. Mais le problème, c'est que...
Le problème, c'est que là, on vous vend ce véhicule-là au prix d'un Mazda CX-5 GT tout équipé. Et que 4 ans après, le véhicule va valoir 5 000 $ de moins sur le marché d'occasion qu'un Honda HR-V qui a été payé 27-28 000.
Voilà.
Alors, vous payez 10-12 000 $ de plus qu'un véhicule de la compétition. Et 4 ans après, votre véhicule vaut 5 000-6 000 $ de moins que la moyenne de la compétition.
Donc, si on fait l'erreur de l'acheter, il ne faut pas faire la deuxième erreur d'essayer de le revendre.
Ben, en fait, faites pas l'erreur de l'acheter.
Voilà.
Vous pourriez l'acheter d'occasion. À ce moment-là, ça serait pas cher. Mais le problème, c'est que vous allez avoir un véhicule où il n'y a pas beaucoup d'inventaire de pièces de disponibles. Les pièces sont assez coûteuses, d'ailleurs, là-dessus.
Oui, parce
faut
que
le
c'est
mentionner.
Italien. Hein?
Puis l'autre affaire, c'est que si vous achetez un modèle d'occasion, 2016, 17, 18, puis 18, c'est déjà plus rare, bien là, vous allez avoir les anciennes mécaniques qui étaient loin d'être impressionnantes. Alors, oubliez donc ça. Il est bien cute, là, mais ça s'arrête là.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Germain, comme invité cette semaine, on a Benoît Lavigne qui est un passionné de Dodge Challenger. Et pourquoi on voulait parler à Benoît? Parce qu'on fête cette année deux fois plutôt qu'une,
oui.
Les 50 ans de la Dodge Challenger. Alors, m'a partir l'entrevue.
Oh, hein? Ça, c'est pas pire. Oui.
Bravo, merci. Je savais que tu l'aimerais, celle-là. Oui. Ben, salut Benoît. Merci d'être avec nous.
Merci d'être là.
Oui, bonjour Antoine. Bonjour Germain.
Donc, pour la petite histoire, Benoît possède une Challenger lui-même, a possédé plusieurs autres voitures et véhicules de la famille Mopar, mais on va revenir à la fin de l'entrevue sur sa voiture spécifique. Mais, comme Antoine le mentionnait, cette année, le Challenger fête son 50e anniversaire. On a dévoilé une première édition spéciale l'automne passé qui était cuivrée. Et dans les dernières semaines, on a dévoilé une deuxième édition spéciale pour le 50e toujours. Elle est grise.
50e anniversaire. Mais évidemment, il y a bien des années où il n'y a pas eu de Dodge Challenger.
C'est pas comme la Mustang ou la Corvette, ben, sauf 83, où on a un fil continu. Là. Mais bref, est-ce que tu es capable, Benoît, de nous remettre en contexte de la sortie originale du Challenger en 70?
Oui, ben en 70, Dodge, la création en général, était un petit peu à la recherche d'une voiture pour compétitionner avec la Mustang qui était déjà sur le marché depuis quelques années. Plymouth avait essayé avec la Barracuda là, à peu près même quelques semaines avant la Mustang en 64, mais la voiture avait vraiment pas autant de chance que la Mustang et puis a pas connu beaucoup de succès à ce moment-là. Donc,
Il y avait le duo Camaro Firebird qui est arrivé en 67 aussi.
C'est ça, en 67 aussi. Donc ça, à la fin 66, effectivement, pour l'année 67. Donc ça a vraiment tombé dans les reins un petit peu de Chrysler qui, en fait, avait juste la Barracuda qui était basée sur le châssis A, là, qui était pas vraiment sportive, malgré qu'on y mettait des gros moteurs rendus là. Et puis Dodge avait la Dart, qui était vraiment un peu trop, juste un sedan carré, là, qui avait pas vraiment d'aspect sportif, malgré toutes les bandes de stripes et puis tout ça qu'on rajoutait, les modèles swingers, tout ça.
Oui, disons que ça swingait beaucoup.
Oui, ça restait une voiture.
C'est ça, il y avait des très bonnes mécaniques. C'est-à-dire, il y avait le 340 qui était à ce moment-là, qui était un des meilleurs small blocks qui était disponible sur le marché, les 383, Roadrunner, les Magnum, 440, même le Hemi, tout ça était disponible à ce moment-là. Mais,
je trouve ça intéressant d'ailleurs. Je me permets de te couper pour mentionner aux jeunes que oui, un 340 pouces cubes, on appelait ça un small block à une certaine époque.
Oui.
C'était un petit moteur.
Parce que tout est relatif.
C'est ça.
Donc,
c'est ça.
Donc, à ce moment-là, Dodge s'est dit, ben, au lieu de continuer à tout simplement couper deux portes à une voiture compacte qui était la Dart, oui, on voulait arriver avec un modèle qui se voulait à la base sportif.
Comme on dit à l'époque, longer, lower, wider. Donc, plus long, plus bas et plus large. Donc, on a pris en fait la carrosserie ou le châssis du B, qui était les Roadrunner, qui était le mid-size. Aujourd'hui, ce serait considéré comme une limousine quasiment, mais à ce moment-là, c'était un mid-size. Et puis, on a coupé un petit peu sur l'empattement et puis on a mis une carrosserie deux portes plus sportive. Chez Plymouth, ça a donné la Barracuda ou la Cuda, qui était la version sport. Et chez Challenger, on avait un empattement qui était 2 pouces plus long pour avoir quelque chose d'un petit peu plus luxueux, parce que la division Dodge était toujours un petit peu plus luxueuse que la division Plymouth. Donc, on avait la Challenger qui offrait, à ce moment-là, étant donné qu'il était basé sur le modèle B, là, qui pouvait offrir toute la gamme de moteurs là, à partir du vénérable Méo penché, là, 6 cylindres, jusqu'au 426,5.
Puis là, donc, évidemment, contrairement à une Camaro, c'était un châssis complet, ça, là.
Oui, effectivement. En fait, il y a un sous-châssis à l'avant, on appelle un K-member, là,
ouais,
auquel se rattache la suspension avant et toute la mécanique. Et puis, pour le reste, c'est un monocoque, vraiment une voiture monocoque là, qui était utilisée.
Okay.
Donc, ça permettait d'avoir justement quelque chose qui avait beaucoup plus de rigidité. Et puis qui était plus un peu plus confortable aussi.
J'ai une question pour toi avec une sous-question.
Vas-y.
Le Challenger de première génération, bon, l'aventure s'est terminée en 1974. Premièrement, pourquoi?
Oui.
Et deuxièmement, c'est quoi les versions les plus prisées 50 ans plus tard de cette génération-là du Challenger?
C'est pas une 74.
C'est pas une 74.
Non, ça c'est sûr.
Ben, c'est drôle à dire, hein, mais la 74, c'est l'année où il y a eu le moins de production. En fait, ils ont arrêté la production au mois de janvier ou février. De 1974, ils ont même pas fait l'année modèle au complet. Donc, si on fait la nomenclature de toutes les différentes années, là, c'est vraiment la 74 qui est la plus rare. De là à dire la plus désirable, ben là, comme
ouais,
on
c'est
comme
ça. Il y a un
Antoine
jeu,
là. Le sait, souvent, c'est pas la rareté qui fait la désirabilité du modèle. Là. Donc, les modèles les plus prisés, ben évidemment, c'est la 70 qui était la première année. Le design est plus pur, la grille est plus simple. En tout cas, moi, c'est ma préférée. Il y a certaines personnes qui préfèrent le style de la 71 où on avait un petit peu rajouté un petit peu plus fardé, là, une grille séparée en deux, des prises d'air fausses là, sur les ailes arrière et puis tout ça. Là, un peu comme la CUDA aussi. Là. La CUDA 70 est plus pure et puis la 71 est plus...
Un peu plus chargée,
oui. Ouais. Un peu plus chargé, c'est ça.
Maintenant, évidemment, on a vu des Challenger et des CUDA, parce qu'on peut quand même mentionner que c'est pas mal la même voiture. Là.
Oui,
c'est ça.
On a vu des voitures avec des 426 mi match number dans des conditions incroyables se vendre à des prix qui dépassent l'imagination. Est-ce que tu penses que cette période-là est passée ou est-ce que tu penses que ça va continuer à monter?
Écoute, il y aura toujours, les gens disent souvent, le marché va descendre à mesure que les baby boomers, les gens qui tripaient sur ces voitures-là quand elles étaient neuves, vont décéder. Mais on disait la même chose des Tri-Five de Chevrolet, les Chevrolet des années 55 à 57.
Ouais.
Oui, effectivement, le marché pour la voiture ordinaire a descendu, mais les meilleurs exemples, les plus beaux, les plus équipés, les plus rares, eux vont toujours conserver une bonne valeur. Il va toujours avoir un bon nombre de collectionneurs qui vont être prêts à payer le prix pour ça.
Puis,
on parle de voitures rares. On peut considérer que le muscle car le plus rare et le plus dispendieux qui existe sur le marché, c'est la Barracuda décapotable Hemi. Ils en ont produit 12 en 70, ils en ont produit 18 en 71. Puis il y a le Challenger Hemi décapotable aussi. Ça aussi, ils en ont produit 12 en 1970 seulement. Il n'y a pas eu de Hemi décapotable en 71. Donc, ça demeure des voitures qui valent au mieux, au pire, 2,5 millions en état restauré jusqu'à 3,5 millions pour un certain Barracuda décapotable.
Mais on s'entend que ça n'a aucun bon sens.
Le marché peut... Il y a peut-être 50 personnes, 50 collectionneurs à travers le monde qui sont en mesure de s'acheter une de ces voitures-là. Puis il y en a 50 disponibles. La production, sur les 52 qui ont été produites, il y en a deux seulement qui ont disparu.
Mais est-ce que c'est une période qui est éphémère ou est-ce que tu crois que ça va continuer de monter? Parce qu'on sait qu'une Ferrari...
Parce que ça fait un moment là, que ça coûte cher, là, un Challenger Hemi.
Ouais. Mais tu sais, c'est probablement... C'est encore plus... Tu sais, parce que ces voitures-là coûtaient à l'époque, quoi? 7-8 000 piastres?
Ah, moins que ça?
Ah, même pas. 3 500, 4 000. Là.
Avec un Hemi décapotable?
Ah, pas avec un Hemi. Un Hemi décapotable, là, tu frisais probablement les 5 500, 6 000, dépendamment de l'expérience.
Bon.
Parce que tu pouvais avoir des modèles très dépouillés et tu pouvais acheter des milliers de dollars d'options là-dessus. Là.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est sûr que mais ça variait, mettons, entre 4 500 et 5 500 à peu près.
Fait qu'imagine-toi, on s'entend que c'est un placement assez intéressant pour le gars qui l'a conservé, ce qui n'est probablement jamais arrivé, là. Mais... En pourcentage, c'est encore un meilleur investissement que le gars qui s'est acheté une Ferrari dans les années 60 puis qu'il l'a aujourd'hui puis que la voiture vaut 20 millions. Parce que au prorata, il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. Puis là, tu regardes ça puis tu dis...
Parce que c'était une voiture presque ordinaire.
Souvent, on a cette conversation-là où on dit « Ah, j'aurais dû garder ma voiture que j'ai achetée un Challenger ou j'aurais dû acheter un CUDA Hemi en 71 puis le garder. »
Oui, sauf que si tout le monde l'avait fait, ça vaudrait rien.
Si tu regardes le rendement... Ben, il y aurait ça, mais si tu regardes simplement le rendement en bourse, si tu avais tout simplement placé cet argent-là à la bourse avec des placements,
si tu avais placé 6 000,
t'aurais plus d'argent.
Si tu avais placé 6 000 $ en bourse en 70, tu serais probablement millionnaire aujourd'hui. Là.
C'est ça, mais t'aurais pas le plaisir de conduire ton investissement.
Non, voilà.
Parce que je disais, j'ai justement un voisin ici dans mon coin qui, lui, a fait ça. Il a acheté un CUDA Hemi 71 Et puis, il possède toujours la peinture originale dessus, de la mécanique originale. Et puis, il n'y a aucune intention de la vendre de son vivant. Là.
Ah, parce que je m'en ai dit, dis-y, j'y donne 2-3 000.
Oui, c'est ça.
Ouais, non, peut-être pas. Il a refusé pas mal plus que ça.
Oui, j'imagine. J'imagine.
Si on clôt le sujet.
Il y a des gens qui les ont conservés.
Si on clôt le sujet de la première génération, est-ce qu'on peut dire que c'était un succès pour Dodge, même si ça n'a pas été très, très long?
Non, mais le problème, c'est qu'il y a eu d'énormes problèmes de qualité d'assemblage dans la première année. La première année a été bonne, autant pour la CUDA que le Challenger, mais là, on parle surtout de Challenger. C'est un nouveau modèle, ils ont fait un énorme blitz de publicité, rien comparable à la Mustang, là, mais je veux dire, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité, tout ça. La voiture est neuve, elle avait un look vraiment moderne avec les essuie-glaces cachés. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis, mais dans ce temps-là, c'était vraiment, tu sais, de pas voir les essuie-glaces qui étaient en dessous du capot, c'était vraiment... quelque chose de nouveau à cette époque-là. Puis, en tout cas, il y a eu un gros blitz, tout ça. La première année, ça s'est très bien vendu. Sauf que, malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes de qualité avec les différentes composantes, tout ça, à l'intérieur.
Et là, c'est un adepte du modèle qui admet qu'il y avait des problèmes de qualité, là, hein? Quand même.
Oui, comme beaucoup de modèles au début des années 70. Écoute, la fiabilité était pas... Chrysler était reconnu pour sa qualité d'ingénierie. Donc, la qualité des moteurs, la qualité de l'ingénierie, tout ça. Mais au niveau de l'assemblage, là, malheureusement, c'était pas les gros chars.
C'était tellement incroyable que tu pouvais choisir deux voitures qui sortaient de la ligne d'assemblage une après l'autre, puis tu conduisais pas le même véhicule. C'était non, à ce point-là.
Non, c'est ça. Fait que malheureusement, ça les a rattrapés assez rapidement, puis les ventes ont chuté de moitié. De 50 quelques mille exemplaires la première année à 25 000 l'année suivante.
Et c'était rendu un challenge de les vendre.
Oh, mon Dieu.
Je suis en forme.
Deux jeux de mots.
Je suis en forme.
Voilà. Bon, 74, bon, on connaît le contexte, crise du pétrole, oui. c'est loin d'être la joie. Là, on a un creux et on revient avec la Challenger en 78, mais là, c'est plus une Challenger comme on la connaissait, là.
Non, malheureusement. Ça, c'était probablement un faux pas de la part de Chrysler d'avoir appelé ce modèle-là, tout ça. Mais je veux dire, il essayait justement de ramener un petit peu d'héritage de la marque pour pouvoir mousser un nouveau modèle qui avait...
Mais est-ce que c'était un héritage de ramener le nom Challenger alors que le nom avait quoi, 7-8 ans seulement? Tu sais, c'est ça qui est curieux. Puis là, faut quand même mentionner.
Il y a tellement une grosse différence d'époque entre le milieu des années 70 puis le milieu des années 80. Je veux dire, si on regarde l'évolution dans l'automobile, il y a eu beaucoup plus d'évolution dans ces 10 années-là que dans les 30 années précédentes.
Faut mentionner aux gens qu'une Challenger 78 à 82-3, c'était
un Mitsubishi Galant, un Plymouth Sapporo. Ouais. Ça avait rien d'un muscle car, absolument.
Ça avait 100
pas.
Chevaux puis ça avait un 4 cylindres de 2.6 litres.
C'est comme si Chrysler avait sorti en 2008 ou 2009 ou 2010 une version intrépide du 300 ou quelque chose comme ça. Là. Ben, de ramener un nom si peu ancien.
Je me permets de te dire que Chrysler a ressorti la Dart
sur
une plateforme d'Alfa Romeo Giulietta, puis ça a été un succès, ça aussi.
Oui, un autre grand succès, puis on en parlera quand ça fera 50 ans, mais pas avant.
Encore une fois, les problèmes de qualité qui ont tué un modèle.
Oui. Exactement.
Donc, ça n'a pas été un grand succès pour la deuxième génération. Là, ensuite, en 2008, là, c'est le grand retour de la Challenger.
Oui.
Raconte-nous un peu, c'était quoi le contexte? Replace-nous à l'époque. Là.
Ben, effectivement, rendu en 2006, ça faisait déjà une couple d'années que la plateforme LX, les Chargers, les 300, la Dodge Magnum, étaient en production. Une plateforme qui avait été empruntée à Mercedes à l'époque où Daimler était en train de prendre tout le jus de Chrysler.
On l'emprunte toujours d'ailleurs cette plateforme-là, puis je suis même pas sûr que Mercedes s'en souvient.
Ouais. Donc on avait une bonne plateforme quand même avec une propulsion. Ça, c'est important aussi d'avoir quelque chose qui était à propulsion. Il n'y avait pas encore grand-chose sur le marché. La Mustang était un petit peu vieillotte aussi. Là, elle commençait à être assise. Elle était quand même intéressante, là, mais entre autres. Donc Chrysler voulait avoir quelque chose de compétitionné. Ils ont tout simplement sectionné la partie du centre de la plateforme LX. Ils ont appelé ça une LC. Et puis, on a fait un modèle 2-portes qu'on a appelé Challenger. Je pense que cette fois-là, étant donné qu'on offrait des moteurs V8, que c'était une plateforme à propulsion. C'était vraiment digne du nom Challenger. Là.
Et on avait eu le temps de s'en ennuyer aussi.
Oui, oui, là, effectivement. Puis on a vu un phénomène aussi en 2008, lorsque la voiture est sortie. Il y a énormément de gens qui ont acheté cette voiture-là puis qui ont vendu une vieille voiture pour pouvoir acheter ça. Parce qu'ils étaient comme tannés de travailler sur une vieille voiture, oui, de donc, se brasser un petit peu.
Ils se retrouvaient dans une voiture neuve. Une voiture neuve, confortable, garantie.
Au look rétro.
Au look rétro.
C'était sans... vraiment celle qui avait le plus look rétro des trois, là, de la Camaro, Mustang. C'était vraiment celle
qui... Oui, la Camaro qui est arrivée deux ans plus tard. Camaro est arrivée deux ans après, donc en 2010. Ouais. Mais la Challenger était déjà sur la route. Moi, j'avais assisté à la présentation média de la Challenger 2008. Puis, écoute, c'était tout un tabac qu'on avait fait avec cette voiture-là. On avait des grandes aspirations. Mais tout de suite, on avait posé des questions par rapport... Bon, là, puis on pourra parler tout de suite après de la Challenger 500, parce que tu as une théorie intéressante là-dessus. Mais on avait, dès le départ, posé la question, pourquoi seulement un coupé? Pourquoi il n'y a pas de décapotable? Et ce que je trouve intéressant, c'est que 12, 13 ans plus tard, toujours pas de cabriolet de cette voiture-là.
Ouais, il y a des entreprises indépendantes qui vont faire des conversions. Mais ouais, ceci.
Ouais, il y a une compagnie qui s'appelle Drop Top Customs en Floride qui a fait le prototype pour Dodge en 2010, je crois.
Mais pourquoi il n'y a pas eu de cabriolet selon toi?
Ben, selon eux, c'est une question de marché, là, qu'il n'y avait pas assez de marché par rapport à tout ça. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2008-2010, la Challenger était vraiment beaucoup derrière la. Puis même une fois que la Camaro est sortie aussi pendant quelques années, la Challenger était vraiment derrière les deux, était vraiment la troisième dans les ventes. Depuis quelques années, la Challenger a dépassé la Camaro. Là, ça ferait un peu plus de sens. Mais là, par contre, on est rendu tellement loin dans la production, puis là, on sait que le modèle va seulement durer quelques années encore. Ça vaut peut-être pas la peine de réinvestir dans les lignes de production pour ajouter un modèle décapotable. Par contre, il y a beaucoup de concessionnaires américains qui prennent des modèles neufs, qui les envoient chez Drop Top en Floride et puis qui vendent ça à 20 000 $ de plus. Là. La conversion coûte 16 000 $ américains.
Ce qui n'a pas de bon sens.
Les concessionnaires le font faire.
Et c'est moyennement beau, là.
Non, ben c'est ça. C'est surtout que c'est pas... Si tu trouves pas que c'est... Tu sais, je veux dire, le marché de la Mustang aux États-Unis, il se vend deux coupés pour un cabriolet. Là. C'est, je veux dire, c'est un marché gigantesque, la décapotable, dans ce segment-là.
Surtout pour des voitures de location.
Ben oui, puis en plus, Chrysler abandonnait, au début des années 2010, la 200.
Ouais.
Donc, ça aurait été, pour moi... Le moment idéal, même si tu le vends en V6, tu le vends pas en... Évidemment, tu fais pas une version L4 cabriolet, là, à un moment donné, il y a des limites. Mais, tu sais, de vendre une version V6 décapotable, je me dis, il aurait été capable d'aller chercher un marché avec ça et on l'a jamais fait. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, par exemple.
Oui,
maintenant, on va parler de la Challenger 500.
Oui, la 500, la théorie, les rumeurs, on veut tout savoir.
Donc, il faut mentionner d'abord aux gens que la Challenger 500, c'est les 500 premières Challenger qui ont été fabriquées. De mémoire, c'était orange ou noir? Il y avait deux couleurs seulement?
Silver
orange,
aussi.
Orange, noir ou silver.
Ou silver, OK, parfait.
Il y avait la silver aussi.
Donc, techniquement, il y en aurait eu 500.
Oui, puis même chaque voiture venait avec une plaque avec un numéro et puis même un certificat, le porte-clés, en tout cas, tout le Bataclan, il y avait vraiment beaucoup de gadgets qui venaient avec ça. Par contre, c'est sûr, il y a eu des rumeurs que, bon, pourquoi est-ce que Chrysler se serait limité à 500? Il y en aurait eu plus que ça. En fait, je pense que c'était comme 3000 qu'il y avait eu aux États-Unis aussi, ou un peu plus que ça. Puis la même chose, là, les gens disaient, malgré qu'elles étaient numérotées, il y a eu des rumeurs que déjà, il y a des deux personnes qui se sont trouvées avec le même numéro de séquence, et puis... Mais c'est ça, tu dis pourquoi est-ce que ce serait vraiment limité quand il y avait vraiment une folie en 2008. Là, il y a des concessionnaires qui allaient chercher des markups de 10, 15 000 $ par-dessus le prix de liste pour vendre ces voitures-là. Tu dis s'il y en avait eu un autre 150 de plus à vendre, d'après moi, ils ne seraient pas gênés pour les produire. Surtout que Chrysler, à ce moment-là, n'était pas nécessairement dans la meilleure santé financière.
Non, ça, on était dans un sérieux creux de vague. Puis pourtant, ces Challenger-là, c'était des SRT, un moteur 425 chevaux.
C'était des SRT8.
C'est ça.
Oui, c'était des SRT8.
Puis à l'époque, elles étaient toutes automatiques.
Oui, il n'y avait pas encore de ça. Il n'y avait pas encore la tension manuelle en 2008.
OK, bon, parce qu'on a une collègue journaliste, Jill McIntosh, pour ne pas la nommer, qui en possède une Challenger 500 orange.
Ah!
Puis elle en sort une couple de fois par année. Ça ne roule pas beaucoup, cette voiture. Enfin.
Il y en a eu probablement, je dirais, 10% qui ont été mis dans la Watt, là, qui ont été mis dans Boulamite en 2008 pour des gens qui pensaient faire la passe du siècle, là, comme des gens qui avaient acheté des Buick GNX.
Ou des oui, Ford GT un petit peu.
Ben moi, je vous permets de. Je me
non,
permets
la
de
Ford
vous...
GT a apprécié.
Oui, c'était un meilleur bet.
Moi, je me permets de vous raconter une anecdote. Alors, j'ai un professeur de secondaire avec qui j'ai continué de parler après avoir fini mes études au secondaire.
T'as fini ton secondaire?
Oui, oui, okay. Je te jure. Puis en 1999...
Il a fini avec le secondaire.
Oui, c'est ça. En 1999, il s'est acheté un Chrysler PT Cruiser et il a serré ça dans un garage en pensant que ça allait prendre de la valeur, que ça allait devenir un collectible. Et pas une version... Un PT Cruiser Gold de milieu de gamme, le Touring ou je sais pas quoi.
Rien de particulier.
Rien de particulier. Puis il l'a serré pendant plusieurs années, puis après ça, il a vite compris que ça servait pas à grand chose.
Ben, c'est probablement le propriétaire de PT Cruiser qui a eu le moins de problèmes.
Oui, voilà. Ça se peut, effectivement.
On sait tous qu'il y a eu plein de versions pseudo-spéciales de la Challenger.
Oui,
est-ce
oui,
qu'il y en a que tu considères qu'ils pourraient être des modèles qui conserveraient leur valeur ou qui iraient même jusqu'à en prendre?
Ben, si on se fie à justement la Challenger 500 de 2008, on s'est vite rendu compte là, que c'était juste une voiture usagée puis que, elle a déprécié comme n'importe quelle autre voiture.
Ouais.
Je pense que les éditions spéciales comme la Mopar 10 qu'il y a eu en 2010, qui était noire avec une bande rouge ou silver ou bleue, c'est des modèles qui sont intéressants, qui viennent souvent avec des extras, tout ça, puis qui vont peut-être être plus faciles à revendre parce qu'elles sont un peu plus distinctives. Mais de là à dire que ça va devenir un objet de collection, il n'y a pas vraiment beaucoup de voitures modernes, à part justement une Ford GT ou comme ça, qui peut aspirer à devenir une voiture de collection. C'est des voitures de grande production, là,
puis
qui, en plus de ça, sont difficiles à conserver à long terme, là, avec toute l'électronique. Tout ça.
Ben moi, le gag que je dis souvent, c'est que la Challenger, la plus rare, c'est une version de base V6,
oui.
Pas d'option. T'sais, ça...
Oui, parce que,
En 2005, quand ils ont sorti la L4, les gens sont garochés sur des L4. 2015. Ça va être un modèle rare, tout ça. En fait, ils ont vendu plus de L4 que de Scat Pack, qui était le modèle avant. Ils ont vendu au-dessus de 7000 L4 sur 27000 Challenger. Donc, plus que le quart de la production de Challenger en 2015 était des L4. Donc, c'est sûr qu'une L4 2015, ça peut être intéressant à long terme si elle n'est pas bon minage et puis qu'elle garde en bon état, tout ça, puis une couleur intéressante. Par contre, il y en a tellement, c'est comme dit, 7000 juste la première année, ça ne deviendra pas une voiture de collection comme telle. Peut-être dans 30 ans, ça va être une voiture intéressante, comme aujourd'hui, un Reliant est une voiture intéressante, parce qu'elle est rare, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, mais c'est vintage, mais par contre, de là à dire que ça va devenir comme un Hemi Cuda.
Et le problème aussi, c'est que ben, autant pour le Reliant que le Challenger 70, ben, c'est pas des véhicules que les gens conservaient dans la Watt à l'époque, alors que là, ben, justement, il y a beaucoup de ces Challengers-là, neufs ou presque, qui, eux, sont conservés.
Oui.
Donc, oui, même s'il y a un peu d'électronique, si le véhicule sort peu et surtout sort pas l'hiver, ben ça va aider à le conserver.
Mais je trouve
10,
ça,
15, 20
c'est ça,
ans
c'est
et
pas,
plus.
C'est vraiment pas difficile d'en trouver une bonne. Là. Quelqu'un qui veut absolument avoir un L4 2015, pas difficile d'en trouver une qui a 10 000, 15 000 km. Là.
Mais au-delà des versions super performantes, L4, démon, tout ce que tu voudras, démon, ça c'est un autre domaine, ça va garder sa valeur.
Oui, parce qu'elle est très limitée.
Ça, c'est
elle
sûr. Celle-là, il n'y a aucun problème.
Mais
ils ont vraiment limité la production, puis c'est documenté. Puis,
mais je trouve ça intéressant de comparer, par exemple, la valeur de revente d'un Charger, d'un 300, versus un Challenger, qui essentiellement est pas mal la même voiture. Un Chrysler 300 en usager, ça vaut rien. Un Dodge Challenger de 2010, ça a encore une très, très bonne valeur. Là, on peut parler facilement de 20 000 $ si on a un V8. Alors qu'un Chrysler 300 2010 avec un V8, quand tu as dépensé 4-5 000 pour ça, c'est beau. Là.
Ouais.
C'est incroyable de voir la différence.
Justement parce que justement, le Challenger a souvent été gardé en meilleur état, a souvent moins de kilométrage. La plupart du temps, c'est une voiture de juste la fin de semaine ou pour l'été ou ainsi de suite. Donc, c'est ce qui explique que souvent, ils vont être en meilleur état, donc ils vont aller chercher un meilleur vie. Mais effectivement, en pourcentage, le Challenger est comme voiture sport, comme voiture de AB. Va probablement justement valoir plus qu'une voiture, un ancien taxi comme un Charger ou un 300. Rien contre, là, parce que j'en ai eu plusieurs Chargers, tout ça.
Mais le côté collectible est aspect intéressant et moins là.
Si j'avais à miser sur une voiture de cette famille-là, moi, je dirais un Magnum SRT8 a probablement plus de chances de devenir un collectible que
2008.
Un Challenger.
Ouais, la 2008. Dernière année.
Oui, la dernière année de production. Puis c'est, d'ailleurs, c'est la Challenger qui a tué la Magnum. Les amateurs de Magnum sont un peu fâchés de ça, parce que quand ils ont commencé la production du Challenger, ben, il a fallu qu'ils coupent sur la production d'un autre modèle. Donc, c'est la Magnum qui a...
Qui est passé au bistouri, effectivement.
Puis après ça, fallait, si on voulait un véhicule familial, il fallait acheter un Journey. Voilà. Donc, qui n'était pas tout à fait le même véhicule. Benoît, en présentation, on a dit que tu avais, que tu as une Dodge Challenger 70 orange, mais qui n'est pas comme toutes les autres Challenger orange. je te laisse nous présenter ton petit bijou.
Oui, ben elle est spéciale, un peu comme son propriétaire. C'est mon deuxième Challenger Vintage. J'avais un 71 avant que j'ai en fait même donné en échange pour la 70. Là. C'est une voiture qui est spéciale parce que premièrement, elle a été vendue au Québec par un concessionnaire qui est maintenant fermé là à Tracy. Ça s'appelait Tracy Automobile. Donc la voiture a été vendue neuve au Québec et c'était un ce qu'on appelle un dealer démo, donc une voiture que le propriétaire avait commandée pour son usage personnel, puis okay. pour un peu démontrer les options. Puis pour faire ça, effectivement, il a commandé la voiture avec 32 options séparées de compagnie, ce qui en fait là, la Challenger 70, d'après les experts, là, qui aurait le plus grand nombre d'options, pas nécessairement la plus grande valeur en options, mais le plus grand nombre d'options. Commandé dessus.
Puis les options, juste pour qu'on se replace à l'époque. Là,
16 cendriers.
Oui, c'est ça. Ça ressemble à quoi les options?
Cendrier électrique.
Comment?
Cendrier électrique. Non, écoute, ça va depuis le moteur 340. Il y avait ce qu'on appelle, c'était pas un RT, mais il y avait tout d'un RT parce qu'il y avait un 340 A66 Performance Package. Ça donnait le 340 et tout l'équipement du RT, sans nécessairement avoir les emblèmes du RT. Donc, ça permettait d'avoir des meilleurs taux d'assurance. Il y a différentes choses de performance comme ça, le différentiel autoblocant, ce qu'on appelle short grip en Chrysler, là, et non pas posi. Par contre, ça vaut aussi des options comme le toit de vinyle, le siège à 6 ajustements, le volant Rimblow, radio AM/FM.
On disait à l'époque un toit en matériel.
Un toit en matériel. Ou en vénir.
jusqu'aux jalousies, là, les louvers de vitre arrière, ouais. Les spoilers. Les protèges rebords de portières chromés, ça aussi, ça fait des
OK, on est rendu à 31, là, je te dirais. sinon, tu disais qu'il a été acheté neuf au Québec, et toi, qui es un peu un passionné de la documentation d'un véhicule, t'as retracé le concessionnaire, la famille d'époque, voilà.
Oui, effectivement. Malheureusement, le propriétaire du concessionnaire, la bâtisse existe toujours. Et puis, elle appartient toujours à celui qui avait le concessionnaire, qui a fermé ses portes en 2001, là, lorsque Plymouth et sont fermés Plymouth. Mais bref, le type a juste mis la clé dans la porte du concessionnaire, puis il est parti. C'est sûr, il a loué la body shop à côté, mais le bureau est encore tel quel. Il y a encore toute la documentation des caravanes 2001 et puis tout ça dedans. Là. je vous promets d'aller explorer là-dedans. Mais bref, ce type-là, c'est un monsieur Danny. Il est décédé en début d'année. Et puis lorsque ses enfants ont passé au travers toutes ces choses là, pour trouver des photos d'époque, tout ça pour le signet mortuaire là, pour le salon, ils ont trouvé des photos qui avaient été prises en 70 devant le garage.
Avec ta voiture.
Et puis avec ma voiture stationnée devant le garage en 1970 quand elle était flambant neuve. Ça, c'est assez spécial. Puis c'est cette photo-là qui apparaît sur son signet. Le signe souvenir du salon mortuaire. C'est un peu morbide, mais quand même, j'ai pu récupérer les originaux de ces photos-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter justement de pouvoir documenter leur voiture là, jusqu'au premier jour chez le concessionnaire comme tel, là, avec des photos.
Vas-y, Benoît.
Oh, il y avait confusion, non, là. Il y avait confusion.
OK. Non, mais c'est parce qu'on se voit pas. Hein. Non, mais il y a une chose intéressante qui est amusante aussi avec la voiture, c'est que j'avais des photos aussi qui dataient de 72 du premier propriétaire. Puis on voyait que l'aileron arrière était installé à l'envers. Il pointait du mauvais côté. Fait qu'on se disait, c'est probablement lui qui a essayé de faire un essai aérodynamique, tout ça. Mais sur les photos qui datent de 70, au moment où la voiture était neuve, on voit que l'aileron est installé à l'envers. Fait que probablement qu'il est arrivé de chez Chrysler avec l'aileron à l'envers comme ça.
Quand on parlait de la qualité d'assemblage tout à l'heure, ben, c'en est un bel exemple.
Méchant downforce. Ça devait donner un downforce particulier.
Fait que techniquement, si je veux le remettre complètement d'origine, il faudrait que je remette l'aileron à l'envers. Mais je refuse de le faire parce que je vais passer trop de temps à essayer d'expliquer pourquoi il est comme ça.
C'est fantastique. Merci, Benoît. Puis je te souhaite, évidemment, malgré le fait qu'on ne se croisera pas dans diverses expositions de voitures anciennes cet été, je te souhaite d'aller brûler du gaz.
Oui, effectivement. Il y avait tellement de choses organisées pour le 50e anniversaire du Challenger cette année, dont Carlisle en Pennsylvanie.
Ouais.
Et puis malheureusement, ben, on ne pourra pas y aller cette année. Donc on se promettait beaucoup de sorties et tout ça, mais on va rouler à la place.
Voilà. Parfait, ça. Bonne route, Benoît. Merci.
Merci. Bye-bye.
Merci beaucoup.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, pour conclure l'émission, je pense que tu voulais dénoncer une pratique qui est plus courante qu'on le pense, mais qui est assez problématique, là.
Une pratique qui est très courante chez les concessionnaires automobiles, et là, je reviens encore avec les directeurs financiers. Alors, moi, j'ai eu le cas, j'ai vu plusieurs cas passer ces dernières semaines, ce qui m'a amené à écrire cet article-là. Il y a notamment un type sur Internet qui avait dénoncé les agissements d'un groupe de concessionnaires de la Rive-Sud à son égard, après avoir acheté 3 véhicules. Il avait fait la preuve qu'il s'était fait avoir 3 fois. Et là, je pense que c'est même en cours. Donc, je nomme pas la personne parce qu'elle ne voulait justement pas être nommée.
Ouais.
J'y ai parlé par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et par pur hasard, je tombe sur une personne que je connais, pas une amie personnelle, mais une connaissance, qui, elle, s'est procurée chez un concessionnaire Honda. Et on ne le nomme pas et on ne nomme pas la personne parce qu'elle non plus ne veut pas être nommée. Elle s'est procurée en deuxième chance au crédit une Honda Civic 2019, un modèle LX, tout ce qu'il y a de plus standard. Elle avait besoin d'une voiture neuve. Elle avait déjà possédé un produit Honda dans le passé. Je ne sais pas si elle l'avait acheté neuve, enfin, mais elle avait aimé la fiabilité de ce produit-là. Elle a décidé de retourner chez Honda.
Franchement, c'était pas un mauvais choix, là.
Bon, elle a pris vraiment une Civic, là. Tout ce qu'il y a de plus standard, pareil comme celle que vous voyez, vous en voyez 3 à chaque coin de rue, là.
C'est ça.
OK? Modèle Civic LX 2019.
Mais jusque-là, c'est pas un mauvais choix.
Bon. Alors, elle arrive au concessionnaire. Elle a fait une faillite personnelle dans un passé pas si lointain, ce qui, évidemment, l'oblige à tomber en deuxième chance au crédit pour l'achat de cette voiture-là. Elle regarde une voiture pas trop équipée, là. Tout ce qu'elle a besoin, c'est l'air climatisé, donc on est un peu plus loin que la version de base et c'est tout. Pour une bagnole qui, grosso modo, coûte 25 000 $ taxes incluses.
Voilà.
OK? Autour de...
Encore là, rien de plus normal.
Mais évidemment, sur un financement de 84 mois, comme elle est capable d'assumer techniquement, bien là, on tombe à un taux de 14,99% en deuxième chance au crédit, ce qui lui oblige finalement à dépenser sur 7 ans un total d'à peu près 40 000 $. Un petit peu plus que 40 000 $ quand tu calcules l'intérêt qui a été ajouté pendant 7 ans sur l'achat d'une voiture de 25 000. Là, le directeur financier lui dit, on a une solution qui risque de te plaire fortement. On peut baisser le taux de financement à 9,99%, mais à la condition que tu protèges, que tu te protèges vis-à-vis de la banque et que tu protèges ta voiture. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir acheter des produits qu'on va ajouter à la valeur de la voiture de façon à garantir le prêt. Mais ce que le directeur financier lui dit, c'est que la banque exige de la part de la cliente l'achat de ces produits-là pour baisser le taux d'intérêt. OK? Alors, je vous nomme les produits. OK? On a une assurance vie à 1 950 $, une assurance invalidité à 2 820 $, une garantie prolongée à 2 250 $ et une garantie de remplacement à 1 635 $. La cliente, et là ça c'était son choix personnel, a aussi choisi d'ajouter un anti-rouille à 899 $. Alors ça fait beaucoup de produits de plus.
Ouais.
Mais là, on a réussi avec ça à baisser le taux. On a réussi, et là, vous ne me voyez pas, là, mais évidemment, les
entre
guillemets sont
guillemets,
très
oui. C'est on des a guillemets réussi, majuscules. Là.
On a réussi à baisser le taux à 9,99%. Wow! Quel cadeau!
Ce qui reste très élevé, là, tu sais.
Ben oui, mais on est en deuxième chance
au
crédit.
Oui,
alors, pour une deuxième chance au crédit, c'est un taux relativement intéressant. coût de la mensualité, 601,21 $, pour un grand total de 50 502 $ que la cliente devra débourser sur une période de 7 ans. On est donc 10 000 $ plus cher que si la cliente avait initialement choisi de juste payer le taux de 14,99 %. Mais la cliente n'y a vu que du feu. Et je te le dis, là, cette dame-là est particulièrement naïve parce que c'est moi qui lui ai mis les yeux en avant des trous. Quand elle a commencé à me parler de sa voiture, j'ai dit « j'aimerais ça voir ton contrat ». Puis bon, c'est comme ça que j'ai fini par tomber sur... elle ne m'a pas montré le contrat tout de suite, elle m'en a parlé, je l'ai rappelé. Bon, toute une histoire pour finalement regarder ça. Mais elle se sentait trahie. Elle n'était pas à l'aise. Elle ne voulait pas qu'on la nomme. Elle ne voulait même pas que je dénonce le concessionnaire. C'est son droit, c'est correct. Mais moi, je veux dénoncer la pratique. Parce que il y a deux choses dans ça. C'est extrêmement immoral de la part d'un directeur financier d'aller remplir la cliente de 10, 12, 14 000 $ de produits à 10 % de taux d'intérêt.
Parce que son travail au directeur financier, c'est de conseiller le client sur...
Ben, attention, il y a une façon de présenter les choses.
Oui.
OK? Moi, là, je veux dire, un concessionnaire automobile, c'est pas un OSBL, c'est là pour faire de l'argent. Puis j'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème dans la façon de vendre le produit. Mm-hmm. C'est correct qu'un concessionnaire décide de vendre une assurance invalidité ou décide de vendre une garantie de remplacement.
Et dans certains cas, c'est approprié.
Et c'était même bien que la cliente se protège un peu dans le contexte où elle était. OK? Parce qu'on est en deuxième chance au crédit. Oui. On ne veut pas ternir le crédit s'il arrive un pépin, mais aurait fallu lui présenter la chose différemment ou à tout le moins lui donner le choix de dire, regarde, tu peux acheter le produit avec nous, voici les avantages de notre produit, tu peux le prendre comme ça. Et c'est un produit qui existe aussi du côté de ton assureur personnel. Regarde, libre à toi, mais on te le présente de cette façon-là. Le problème que j'ai, c'est qu'on l'a bullshité en lui disant, regarde, le taux c'est 15 %. Si tu achètes ces produits-là, la banque va accepter de baisser le taux à 10 %.
Alors que la banque, c'est pas vrai.
Alors que la banque n'a absolument rien à voir là-dedans. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Une institution financière a une entente avec un concessionnaire. Plus tu vends de financement, parce que le financement, il ne faut pas oublier que c'est un produit, plus on va donner des ristournes au concessionnaire, plus le concessionnaire va avoir de la latitude pour jouer avec les taux. OK? Alors, le concessionnaire qui sait qui peut passer une cliente en deuxième chance au crédit, a le choix de dire « on va la financer à 12, 13, 14, 15 %.» A aussi le choix de dire « on va financer à 10 %.»
Mm-hmm.
Mais évidemment, plus le taux est élevé, plus la commission est intéressante. Et plus tu vends de financement, plus tu as de ristournes. Alors, lorsque le directeur financier a fait, et c'est une stratégie connue dans l'industrie, la cliente se présente dans la boîte du directeur financier, n'achète aucun produit, on y fera pas de cadeau, on va y charger le plus gros taux possible. Parfait, madame, voici le taux. Moi, au moins, je fais une commission intéressante, le concessionnaire et le directeur financier font une commission intéressante sur un seul produit. Mais si le directeur financier réussit à vendre 10 000 $ de produits,
il va récupérer
une belle
commission.
Ça sera une stratégie de vente pour faire croire à la cliente qu'on peut réduire le taux.
Et qu'on lui fait quasiment une faveur.
Puis on lui fait une faveur. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été mentionné. La cliente s'est fait dire, on ne fait pas ça avec tous nos clients, mais comme vous semblez être quelqu'un de bien qui reprend sa vie en main, je vais faire un effort pour que tout ça fonctionne.
Me voilà attendri.
Hein? N'est-ce pas magnifique?
Voilà.
Et là, ben, l'affaire, c'est ça. Alors, on c'est mensonger. Jamais une institution financière, que ce soit une caisse, une banque, va avoir un mot à dire sur un produit qui est vendu au concessionnaire. Il n'y a pas de relation entre le taux qu'on vous donne et le produit connexe qui va être vendu. La banque n'a pas de décision à prendre là-dedans, ne pourrait pas légalement le faire de toute façon. Alors, il en tient au concessionnaire de vous offrir un taux X. Est-ce que ce concessionnaire-là aurait pu offrir un taux à 10 % sans vente de produits? On aurait pu le faire, on aurait fait moins d'argent. Alors, on aurait pu être transparent et dire, regardez, je peux vous vendre le véhicule à un taux de 15 %. je peux peut-être essayer de vous l'avoir à 13 %. On sait qu'il va jouer avec sa commission. Mais si vous prenez un produit comme ça, nous, en concession, on vous donne à ce moment-là une promotion, on va baisser le taux. Pas la banque. C'est un mensonge épouvantable. Il y a une façon de vendre le produit, il y a une façon d'être transparent, d'être honnête avec le client.
Ouais.
Puis il y a une façon de faire de l'argent correctement pour un concessionnaire.
Tout à fait.
Un concessionnaire a un objectif, et tous les concessionnaires fonctionnent comme ça. On se donne un objectif de profitabilité par véhicule vendu. Alors que le concessionnaire vende une Fit, un Pilote, un Odyssée, peu importe le produit, on a une moyenne qu'on s'est établie en concession en se gardant,
à la fin du mois, à la fin de l'année, on doit avoir atteint un certain pourcentage.
Alors, si on a décidé qu'on voulait garder 2 200 $ de profit par auto, bon, ben un Honda Civic, il reste 800 à 900 $ dans l'auto. Il faut qu'on réussisse à vendre des produits dans la boîte du directeur financier. Sur le Pilote, peut-être qu'on fait 2 500 $, 3 000 $. Alors, à ce moment-là, c'est plus facile, mais ouais. Tu sais, on peut combiner, on peut compenser. Et là, on a été, mais solidement malhonnête. Et malheureusement, je le dénonce parce que là, c'est un cas spécifique que j'ai, mais pensez pas que c'est arrivé dans ce seul
cas. C'est pas un cas isolé.
Ben non. Si vous faites vos recherches et que vous allez voir, ce que j'ai parlé aux gens d'autorité des marchés financiers, il y a plusieurs concessionnaires automobiles au Québec qui récemment ont été condamnés pour des pratiques comme ça. C'est monnaie courante de le voir chez des marchands de véhicules neufs, d'occasion, des bannières que vous connaissez très bien, qui annoncent un peu partout. Faites-vous en pas, il n'y a pas de cas d'exception. Est-ce qu'un propriétaire de concessionnaire accepte une telle pratique? Moi, je serais étonné. Et si c'est le cas, ben pauvre gars. Honnêtement, là,
ouais, j'ai presque
pitié de toi. Mais si c'est souvent le directeur financier qui va agir de cette façon-là, sans évidemment que le propriétaire de la concession ou le directeur des ventes
le sache. Parce que lui doit atteindre ses objectifs, mais il le fait de manière un peu ratoureuse. Là.
Maintenant, moi, je pose la question. Est-ce que cette cliente-là, qui a acheté une Honda Civic, qui devra débourser 50 000 pour une auto... Imagine-toi qu'il faut qu'elle retourne son auto aujourd'hui. Là.
Ah.
Il y a un écart de valeur de quoi? 30 000,
ouais,
32 000
sur l'auto? La balloune vient d'exploser. Mais disons qu'elle la conserve. Là.
Bon. Est-ce que tu penses que cette cliente-là va retourner au concessionnaire s'acheter une autre Honda? Ben, elle a peut-être la meilleure voiture pour elle entre les mains, mais son expérience d'achat...
Oui.
Et elle ne l'avait même pas réalisé, c'est ça le pire. Je suis celui qui a pété sa balloune en bon français en lui faisant voir que
elle
s'était fait avoir.
Et c'est dans les commentaires que j'ai reçus après l'entrevue qu'on a fait la semaine passée avec François Gravel, qui est justement représentant dans un concessionnaire. Et beaucoup de gens disaient, ben c'est de plus en plus rare de voir qu'on cultive une fidélité de clientèle comme ça, parce qu'on veut faire de l'argent là, maintenant, tout de suite à soi.
Ben oui, absolument.
Puis, si le client revient dans 4 ans, ben tant mieux. Mais ce qui est important, c'est de faire de l'argent maintenant.
C'est malheureux, mais bon, là, évidemment, on tombe dans un autre sujet, mais il y a beaucoup de vendeurs qui pensent à leur paye de la semaine prochaine et non pas à long terme. Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé dans ma boîte sur ma page Facebook cette semaine l'exemple d'un vendeur Toyota. Je pense que c'est à Saint-Hyacinthe, peut-être que je me trompe. L'exemple d'un vendeur Toyota qui est là, lui, depuis 35 ans.
Voilà.
Alors, ça, je dis pas à tout le monde qu'il faut rester 35 ans au même endroit, mais il y a toujours bien un minimum de respect à avoir pour le métier.
Oui, et puis d'avoir quand un peu de vision, même pour soi-même.
Puis ça m'enrage, parce que moi, c'est une industrie que j'adore. Puis quand on dit que les vendeurs de chars, c'est des crosseurs, tout ce que tu voudras...
Ah, puis on l'entend, là.
Regarde, le métier est entaché par des gars qui font ou des femmes qui font des pratiques comme celle-là. Et puis après ça, bien, essaye d'avoir une crédibilité. C'est
ben
difficile,
voilà.
C'est pas à peu près. Alors, je voulais le dénoncer. Puis, est-ce que le directeur financier en question va se reconnaître? Ça, Dieu seul le sait. Salut tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.